l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence dans la vallée de la Rance, 93.1.
Et voilà, on termine cette matinée en votre compagnie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'heure du déjeuner entre 12h et 13h pour ce présent ce midi. Alors, on a un petit peu bouleversé le programme, hein, puisque vous aviez l'habitude de retrouver Philippe Leuny et Diego Arrabal pour Un jour, un livre, un auteur en deuxième partie d'émission. Mais là, on va les retrouver dans un instant avec Mylène Fondecave qui a une maison d'édition sur Tarbes. On va découvrir cette maison d'édition et surtout trois livres qu'elle a mis en avant. Un, par exemple, qui parle du dernier train, du dernier convoi qui était parti malheureusement pendant la Seconde Guerre mondiale vers les camps de concentration. Elle nous parlera bien sûr des trois livres et un peu de sa maison d'édition. Et puis on partira dans le Gers où dans le cadre des séquences mémorielles du 80e anniversaire de la fin de la guerre 39-45, eh bien le 2e régiment des dragons aujourd'hui basé à Fontevraud a fait son retour à Auch et Pauline Cazier donc sera avec Jean Aucassin, secrétaire national de l'association des anciens du corps franc-pommiès. Et puis également, il sera avec le capitaine Persin, représentant le 2e régiment de dragons dans quelques instants, donc après le journal de la mi-journée. Et puis, on retrouvera Monseigneur Perrier qui nous parle du Père Vergès qui va être canonisé donc samedi prochain à Notre-Dame de Paris et qui était des Hautes-Pyrénées. Voilà, du diocèse de Tarbes et Lourdes. On en parle donc avec lui d'ici quelques minutes. Mais pour l'heure, on retrouve le duo célèbre Un jour, un livre, un auteur, Philippe Leuny et Diego Arrabal.
Présence sur le Causse, 106.5.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Leuny, Diego Arrabal, Philippe Subercaz.
Un jour, un livre, un auteur. Bonjour Diego Arrabal.
Bonjour Philippe Leuny.
Un jour, un livre, un auteur, aujourd'hui avec une maison d'édition d'ici, une maison d'édition d'Occitanie, et pour être très précis, une maison d'édition tarbaise qui fête, et oui, ses 20 années d'existence. Nous recevons les éditions Le Solitaire. Bonjour Mylène Fondecave.
Bonjour Philippe.
Vous avez
Bonjour Diego.
Vous avez la particularité d'être éditrice et auteur d'ouvrages. Donc en fait, vous avez deux activités au sein de la maison d'édition. Parlez-nous tout d'abord des éditions Le Solitaire, donc cette maison d'édition tarbaise, avant que l'on en vienne à l'ouvrage que vous venez de sortir, Tarbes Insolites. On vous écoute.
Alors cette édition a effectivement ses 20 ans cette année. Nous avions commencé petitement et nous nous sommes agrandis. Et c'est vrai que nous faisons énormément de salons du livre pour présenter tous nos ouvrages. Nous avons des auteurs qui travaillent entre guillemets chacun dans leur spécialité et surtout dans leur univers. Ils participent, eux, de leur côté au salon aussi. Nous sommes toujours aussi exigeants sur les textes. Nous pouvons faire travailler aussi et être partenaires des palmes académiques des Hautes-Pyrénées.
Alors, c'est quoi, vous précisez, les palmes académiques pour
Alors,
les auditeurs et auditrices?
Les palmes académiques, c'est un ordre, au même titre que la Légion d'honneur et le mérite. Les palmes académiques ont été fondées par Napoléon comme il a créé la Légion d'honneur.
Napoléon Ier.
Napoléon Ier, pour les soldats, on va dire comme ça, et les palmes académiques pour les universitaires. C'est une récompense qui est donnée à des personnes qui ont œuvré et qui continuent à œuvrer pour la jeunesse. Et c'est en cela que nous sommes donc la maison d'édition peut apporter son concours à des prix qui sont remis chaque année. L'année dernière, nous avons récompensé 265 élèves dans différents domaines.
Sur quel type de projet ?
Des projets, alors, ce sont des projets que des maîtres, qu'ils soient enseignants du primaire, du collège ou du lycée, créent surtout avec leurs élèves. On ne leur impose rien dans la section 65. Une professeure du collège Voltaire, l'année dernière, nous a présenté un remarquable travail sur la protection de l'océan avec une des classes de quatrième, et nous avons récompensé tous ces travaux, une exposition très belle d'ailleurs qui a voyagé en France, et voilà, c'est sur quoi nous nous attardons. Et nous pouvons aussi, quand une classe entière s'est arrivée, travaille sur de la poésie, leur éditer un livre avec des exemplaires par élève.
Alors, on vous a invité aujourd'hui pour parler des éditions, donc effectivement, Le Solitaire. Et donc, pour parler, je vais les montrer donc à la caméra. Donc, ces livres. Alors, on voit donc, je vais enlever les doigts, Tarbes Insolite. Donc, ça, c'est un livre que vous avez écrit. Alors, vous travaillez beaucoup sur les textes, vous travaillez aussi beaucoup sur les couvertures.
Oui.
Parce que c'est une très belle couverture.
Ça, c'est essentiel.
Et le papier, la qualité du papier également, hein, faut le signaler. C'est vraiment des livres qu'on peut offrir, hein, effectivement, pour Noël.
C'est des beaux livres.
C'est des beaux livres, voilà. Hein. On va présenter un autre livre également que vous avez fait.
C'est mon petit dernier.
C'est votre petit dernier, donc, sur Évader seul, le train fantôme. C'est le dernier convoi de déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce qu'on voit où il y a des personnes qui sont issues de Tarbes, qui se sont évadées. Donc une très, très belle histoire, très actuelle. Je le redis souvent dans cette émission littéraire, mais la guerre est revenue en Europe. Je pense qu'il est important, effectivement, que l'on se souvienne effectivement de ce qui s'est passé avant. Ça reste quand même, la mémoire reste quelque chose d'essentiel. Et puis, le dernier, toujours de vous-même, Mylène Fondecave, donc c'est L'autre versant, toujours aux éditions, donc Le Solitaire, d'accord, avec, qui est prix du livre pyrénéen d'or et de Sobrarbre, donc Histoire passeur et évadé en 2023. On rappelle que le prix du livre pyrénéen d'or et de Sobrarbre, c'est le prix du livre, donc du Salon du Livre
de Saint-Lary.
De Saint-Lary-Soulan, qui a la particularité d'avoir lieu une année en France et une année en Espagne. Voilà, c'est cette particularité, comme quoi c'est un lien de Biarritz à Perpignan, mais c'est aussi un lien, effectivement,
du nord-sud.
Exactement, on le redit souvent, notamment, on le voit avec des œuvres que l'on a au Salon du Livre pyrénéen de Bagnères du Bigorre, mais aussi à ce Salon du Livre pyrénéen, donc à Saint-Lary-Soulan. Sur ces trois livres, donc vous avez Tarbes Insolite. On va commencer par celui-ci. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec Tarbes Insolite ? Il y a des choses encore à découvrir ?
Oh oui, absolument. Il suffit de quitter le trottoir des yeux, lever les yeux et admirer les détails de l'architecture de Tarbes. Vraiment de très beaux détails. Et ça m'a plu de faire ça, de guider le badaud avec tout un texte qui s'adresse à lui et qui, en même temps, développe un petit peu et nous fait connaître tout le vocabulaire architectural.
Alors, on va montrer une photo. C'est rue de Kronstadt. Alors, c'est pas pour rien que je le montre, d'une part, parce que c'est là où se situent les éditions Le Solitaire. On ne dira pas si d'autres personnes habitent également rue de Kronstadt. Hein, ça, par contre, on le taira, effectivement. on ne dira pas où peuvent habiter.
Mais on ne le dira pas.
Voilà,
et nous sommes voisins.
Voilà, mais on sait que ces personnes-là sont voisins, effectivement.
Que
voilà.
Des personnes importantes de dans l'édition.
Exactement. Ouais, ouais. On voit que ce livre, bon, il y a énormément de photos. Qui c'est qui a fait les photos? C'est vous qui les faites?
Moi.
Ou pas, c'est vous qui les faites?
Oui, oui.
D'accord. Okay.
Oui, j'aime aussi beaucoup photographier. Il est vrai que j'avais déjà fait ce genre de livre sur Toulouse. À Toulouse, il y a des photographies tout aussi jolies sur l'architecture qui est encore plus foisonnante. Et puis, des quelques pages historiques pour que les personnes puissent s'y repérer. Et en plus, il n'y a pas que des monuments à Toulouse, il y a des personnes. Et chaque fois qu'une personne... comment dire, me touche. Certains en feraient une photographie. Non, je garde les photographies pour les monuments, mais j'écris un texte sur les personnes. Voilà, même sans leur avoir parlé.
Alors, je vais lire un petit passage. Donc, effectivement, avec une photo, on le rappelle, hein, dans l'ouvrage Tarbes Insolites. Dans l'intimité des lumières tamisées, en un vibrant hommage au jour finissant, les toits dardent vers les cieux leurs épis de faîtage. Ornements de terre cuite, dagues protectrices, girouettes de plein vent, feuilles et fleurs en bouquet, symboles de piété, afin de résister aux caprices du temps. On voit qu'il y a une très belle écriture avec de très belles photos. Alors je le redis, hein, le livre, hein, on est en France, et en France on est des latins, on aime toucher. Hein, pas pour rien qu'il y a des bouquinistes en bord de Seine à Paris. Mmh. On aime sentir l'odeur aussi. Voilà, mmh. Je pense que ça fait partie effectivement du patrimoine français, le toucher, l'olfactif, etc. Et ce livre réunit tous ces aspects-là. Voilà, donc vraiment
un beau livre cadeau. C'est
un
vrai.
Beau livre cadeau. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Le deuxième livre, donc vraiment qui est marquant. Alors on va quand même un peu aussi s'attarder dessus. C'est Eva des Seuls. Hein. Donc on l'a dit, j'ai failli dire vos souhaits, Diego Arabal, heureusement ça s'est pas entendu. voilà, mais c'est vrai que c'est la période. Alors, on a quand même, vous mettez aussi, pareil, dans tous les livres, beaucoup de photos. Là, on voit la gare d'Angoulême qui
oui,
a été.
Oui, et ça, c'est pas moi qui les ai prises. Hein,
c'est pas vous qui les avez prises. D'accord.
Moi, j'ai écrit le texte.
Vous avez écrit le texte. C'est vrai qu'à l'époque, vous auriez été jeune, effectivement,
oui,
pour
oui.
les prendre. Photographe déjà, mais bon. Diego Arabal était là déjà à cette époque. Hein,
ah,
Diego
oui,
Arabal, il est contemporain de Napoléon III. Il est un peu plus jeune que vous, d'ailleurs, je crois, non, Napoléon III.
Napoléon
c'est ça
III, il est à peine plus jeune
à peine
que moi.
Plus jeune 3, que vous. Voilà, c'est ça, effectivement. C'est ce dont je me souvenais, effectivement. Bon, voilà, un très beau livre, donc. Évader seul, le train fantôme, dernier convoi.
Il fait partie, ce livre, en ce moment, d'une exposition qui se déroule à la mairie de Tarbes sur Un jour nouveau. Et qui parle de la libération en 1945.
D'accord. Et cette expo a lieu jusqu'à quand?
Encore toute la semaine prochaine.
D'accord, encore toute la semaine prochaine. Ok, Eva des Seuls, donc le train fantôme, juillet-août 1944, le dernier convoi. On voit ici d'ailleurs des photos.
Des bombardiers allemands.
Des bombardiers allemands, je reconnais comme j'ai été. j'ai collectionné les maquettes, c'est des Heinkel H-110, hein, c'est des chasseurs de chars. Voilà, ça je me souviens quand j'étais jeune, effectivement, quand je faisais des maquettes, c'est un temps un peu lointain.
L'année dernière, lors de l'exposition sur l'autre versant, c'est-à-dire les passeurs et les évadés, un monsieur visiteur m'avait dit « Moi aussi, mon papa s'est évadé et il m'a donné quatre éléments. Son papa avait été arrêté à Ourzbeulil, envoyé à Toulouse, embarqué dans un train affreux dans des wagons où on mettait 60 hommes par wagon à bestiaux. » Sans eau, sans nourriture. Et
sans
avec
moyen de pouvoir faire leurs besoins.
Un seau pour 60 hommes. Et donc, un voyage affreux qui, normalement, bon, il y avait beaucoup de trains qui partaient quand même comme ça pour déverser dans les fours crématoires des prisonniers français. Mais j'ai une panne là.
C'était sur. Alors, je vais lire, écoutez, puisque vous avez une panne, un petit passage, ça tombe bien. Sur ce livre, donc, on rappelle, hein, de Mylène Fondocave, Évader seul, le train fantôme. Un petit passage très intéressant sur, avec à gauche, la prison Saint-Michel à Toulouse, et un passage qui est écrit. On est coincé à Parcoul-Médillac. La locomotive est hors d'usage. Les tués et les blessés ont été emportés. Nous sommes combien maintenant? Au départ de la gare Rénale, gare de marchandises à Toulouse, il y avait ceux du Vernet, camp de l'Ariège, où étaient emprisonnés des résistants et opposants politiques d'origine étrangère. Les MOI, main d'œuvre immigrée. Puis ceux de la caserne Caffarelli à Toulouse. Nous, de la prison Saint-Michel de Toulouse. Et enfin, une soixantaine de femmes, toutes résistantes, embarquées comme nous dans des wagons à bestiaux aux parois de bois, aux lucarnes obstruées de planches entourées de fils barbelés. Sans eau, sans évacuation, sauf un seau pour nos besoins. Depuis la fusillade, les portes sont ouvertes. Nous réussissons à avoir quelques nouvelles par les cheminots, prudents, mais qui se font menacer ou repousser violemment à coups de crosse par les gardiens. Ce peu de nouvelles nous redonne le moral. Des jeunes filles du Secours National nous distribuent un peu de ravitaillement et un peu d'eau. Voilà, sur ce livre, donc, effectivement, les photos, un texte qui illustre, qui permet effectivement de se replonger. C'est aussi un joli cadeau, hein, il faut le dire. Toujours pareil, on voit une qualité de papier, un toucher, une odeur, effectivement, que j'aime beaucoup. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'habituellement, les trains mettaient 5 jours environ pour arriver en Allemagne.
S'il n'y avait pas de bombardement.
Oui, mais là, il y en a eu, forcément, puisque tout s'est passé les lendemains du débarquement. Et toutes les voies avaient été détruites. Et là, ils ont mis 2 mois. Et il s'est évadé à Sorgues, dans le Var. Voilà.
Sorgues dans le Vaucluse. Sorgues dans le Vaucluse. Alors, l'autre versant, toujours pareil, du Mylène Fondecave. Alors, on voit quand même que dans les trois livres, entre Tarbes insolite, Évadé seul et l'autre versant, il n'y a pas vraiment de lien entre tout ce que vous écrivez. En fait, vous êtes très éclectique.
Oui.
Merci. Merci d'être passé. C'est tout. Voilà, non, mais...
Oui, mais je ne le fais pas exprès. En réalité, les Palmes Académiques Travail est un partenaire de l'ONAC, l'Office National des Anciens Combattants. Donc, il y a une expo par an et j'écris un livre par expo. Voilà. C'est tout simple. Et à côté de ça, je travaille en ce moment pour l'exposition de l'année prochaine.
Voilà. D'accord. Bon, mais on va vous faire revenir alors.
J'espère.
Hein, pour effectivement nous parler de vos futurs projets. Alors, Mylène Fondecave, l'autre versant, 1939-1945. Pareil. Même construction, des photos à l'intérieur. Et un texte que je vais lire. Mon père. Sa veste n'est jamais très loin de moi. Le temps en a troué les poches. Troué aussi mon cœur à jamais, crucifié d'une indicible tristesse. Que mes parents se soient sacrifiés, immense preuve d'amour pour me donner une seconde fois le jour. C'est un texte en hommage à votre papa, Mylène Fondecave, ou à tous les papas?
Non, pas, oui, de mon père, j'ai déjà écrit quelque chose. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que ce travail qui m'a été demandé d'écrire pour les passeurs et les évadés avait déjà été fait et refait par des historiens. Et donc, je n'allais pas recommencer éternellement la même chose, très certainement moins bien qu'eux. Par contre, en lisant leurs écrits, je trouvais que ça manquait d'émotion, de ressenti. Et c'est ce que j'ai voulu faire, pardon. C'est ce que j'ai voulu faire à travers ce livre, c'est exprimer l'état d'esprit, ce qu'on pouvait ressentir les gens à l'époque. J'ai donc créé un personnage, un garçon de 17 ans, que les parents veulent sauver. Ils donnent tout leur argent à un contrebandier, c'est un cas qui a dû se passer 100 fois, et pour qu'il passe en Espagne. Le contrebandier fera parfaitement son travail et parce que s'il s'est pris d'affection pour cet enfant et il l'amènera dans sa ferme où lui et son épouse n'ont jamais pu avoir d'enfant.
Quand vous dites contrebandier, c'est passeur.
C'est un passeur, mais d'accord. Espagnol.
Mais espagnol, d'accord.
Voilà, parce qu'il y en avait aussi, des espagnols. Et donc, j'ai donc traité cette période 1939-1945 en poésie.
Alors, je vais relire un autre texte, effectivement, qui est très beau aussi. Alors, avec une très belle photo, hein, pareil. Les photos, c'est toujours...
Oui, c'est toujours moi.
Bon. Je sanglerai ma peur d'un lien d'adversité. J'étranglerai mes doutes d'audace débridée. J'étoufferai l'angoisse d'un bâillon d'espérance. Je me ferai isard sur les pentes escarpées. J'ancrerai mes sabots sur l'arête des rochers pour que d'un coup de rein, pour que d'un seul élan, je gagne à chaque saut une once de liberté. Je passerai. J'en ai la chair de poule.
Rien oui. De dire. Hein, ouais. C'est prenant, oui.
C'est prenant. Je pense que ça résume très bien l'esprit des milliers de personnes qui sont passées pendant la guerre. Hein. J'oublie jamais que ce département, la particularité, je trouve qu'il représente, c'est qu'en 1936, les gens sont partis du nord, du sud au nord. Et puis, 4 ans plus tard, ça a été l'inverse. Les gens sont partis nord au sud. Quand ils sont venus du sud au nord, ils n'ont pas forcément, les Espagnols n'ont pas toujours forcément été bien accueillis.
Ils étaient dans le camp du Vernet.
Exactement. Et je pense que ceux qui les accueillaient ne pensaient pas que 4 ans plus tard, c'est le mouvement inverse qui allait partir. Et je trouve que, voilà, l'autre versant, ça interroge aussi parce que derrière, je passerai, mais ça ne dit pas de quel côté. Oui. Ça ne dit pas dans quel sens. C'est valable pour tout le monde. Je trouve que c'est un beau livre, effectivement, pour se souvenir de ce qui s'est passé avec ces deux guerres. Hein. La guerre civile en Espagne, et puis ensuite la défaite en France, où des personnes qui ont décidé de continuer la lutte à l'appel, suite à l'appel du général de Gaulle le 10 juin 1940, voilà, passer par l'Espagne, rejoignaient le détroit de Gibraltar.
Aussi.
Le détroit de Gibraltar, donc, étant anglais, et de là, effectivement, ils rejoignaient les forces anglaises et les forces françaises.
Ils pouvaient aussi passer au Portugal, qui avait un statut de neutralité.
Oui.
Et qui permettait de passer aussi en Angleterre, puisque grâce à sa neutralité, les relations existaient avec l'Angleterre, à partir du Portugal.
Mais souvent, les évadés passaient aussi quelque temps dans les prisons espagnoles.
Oui.
Afin de vérifier qu'ils étaient ou non.
Oui, et puis, l'Espagne tirait profit financièrement des passages. C'est-à-dire que les alliés payaient pour les gens qui traversaient la frontière et qu'on autorisait à aller jusqu'à Gibraltar ou aller jusqu'au Portugal.
Ils payaient le droit de passage.
Ils payaient un droit de passage qui était assez élevé.
Quelles conséquences ?
Il y a un personnage célèbre qui est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Justement,
c'est pas moi.
À la frontière. Alors non, c'est pas vous, Diego Rabal. Mais c'est vrai que je pensais à vous,
vieux,
parce que je sais que... Il y a un personnage célèbre qui est devenu après un soldat célèbre durant la Seconde Guerre mondiale, qui est devenu général. C'est le général Leclerc de Hautecloque, qui est passé donc par le pays catalan, qui a été arrêté par les Espagnols. Avant effectivement de pouvoir s'évader et de partir effectivement rejoindre le général de Gaulle à Londres. Il y a peu de gens, ça effectivement, qui le savent. On pense souvent au général Leclerc avec la 2e division blindée, qui a débarqué donc en août 1944, donc en Normandie. On ignore effectivement cette histoire où il a traversé la France. Je recommande un très beau podcast sur France Culture, il y a eu donc 8 émissions en tout, sur le général Leclerc de Hautecloque, sur comment ce général, et j'y pense en voyant l'autre versant, comment ce général, qui était issu d'un milieu qui aurait dû le rapprocher complètement de Pétain, a décidé à un moment donné de tourner le dos à Pétain, notamment lorsqu'il a été obligé de après la débâcle, donc de s'enfuir, et qu'il a été accueilli par des gens, protégé par des gens qui étaient des gens du peuple, des gens qui n'étaient pas du tout de son milieu social, des personnes à un moment donné qui lui ont montré quelque part ce qu'était la France. Et ces émissions montrent, donc depuis cette période-là, jusqu'à la libération, comment cet homme qui a quitté sa femme et ses enfants pendant 4 ans s'est retrouvé donc sur place. Voilà, l'autre versant me fait penser à ça. C'est un podcast qu'on trouve sur France Culture. J'ai écouté les 8 émissions. C'est véritablement passionnant. On va arriver au terme de cette émission. On rappelle donc les éditions Le Solitaire. C'est là, voilà, cette caméra là. Donc l'autre versant. Tarbes insolites également.
Hop. Et là, avec la troisième main, le troisième.
Et la troisième main, bon, qui va apparaître, ça va être celle de Mylène Fondecave, qui va m'aider, effectivement, parce que je n'en suis pas
un peu plus
encore
haut,
là, évadé un peu plus haut, voilà, évadé seul. Voilà, les 3 livres, effectivement, qu'on vous recommande, qui sont absolument formidables à lire, et on vous les recommande pour Noël, et même après, pas que pour Noël.
Tout à fait.
Merci à vous.
Merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation donc, d'un jour un livre un auteur de présence. Et puis on vous dit à bientôt, Emilienne Fondecaf, parce qu'on voit que vous fourmillez de projets éclectiques.
Quelques-uns.
Il y en a un en préparation là ?
Oui, pour l'exposition de l'ONAC de l'année prochaine.
Alors l'ONAC, l'Office national des anciens combattants. Voilà. Il sera pris quand ce projet ?
Je vous téléphonerai.
Bon, donc vous voulez pas nous donner la date. C'est juste pour qu'on ait le scoop sur présence.
C'est difficile de donner la date.
Bon, allez.
Prévoir. Diego vous le dira.
Bon, allez. Ah, Diego. Ah, d'accord.
En passant devant, oui, je
vais. Bon, voilà, en passant devant. Voilà. Là, on comprend que vous êtes voisin. D'accord, ok. Allez, on n'en dira pas plus. Allez, merci beaucoup. Écoutez, de nous avoir accompagnés. Diego Arabal, on se dit
à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, nous. Et puis vous, on vous dit à très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir, Diego. Au revoir, Philippe.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni. Philippe Subercase. Radio Présence à Toulouse 97.9.
Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement. N'est plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, notre douce fournaise. En ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux. Je chante à mon aise. Je vis d'amour. Vivre d'amour et c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. Chaque instant tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix et la joie dans les cœurs. Pilote aimé, la charité me presse, car je te vois dans les âmes mes sœurs. La charité, voilà ma seule étoile. À sa clarté, je vogue.
Saint-Cirq-la-Popie, 92.5.
Voilà, après ce moment de littérature avec Un jour, un livre, un auteur et cette belle chanson de Natacha Saint-Pierre, eh bien, on va retrouver l'actualité de la mi-journée qui nous est présentée, comme chaque jour, par les élèves de l'Institut supérieur du journalisme de Toulouse, qu'on remercie bien sûr, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est Wassim Dir qui fait le journal. Bonjour Wassim.
Bonjour à toutes et à tous. En ce début de semaine, des collégiens formés aux valeurs de la laïcité. À l'occasion des 120 ans de la loi de la laïcité en France, le conseil départemental de la Haute-Garonne célèbre les 10 ans d'un dispositif de sensibilisation. 400 000 jeunes haut-garonnais en ont bénéficié. Une éleveuse tarnaise couronnée Miss Agricole 2026. Dans le Tarn, une éleveuse de chèvres décroche le titre de Miss Agricole 2026. Christelle Goujade, titulaire d'un BTS agricole, a repris la ferme familiale avant de lancer sa propre activité. En attendant de recevoir son échange, elle se dit ravie de pouvoir représenter et valoriser le monde agricole. Sur la 69, une audience clé se tiendra ce jeudi pour l'avenir du chantier. La Cour administrative d'appel de Toulouse examinera une audience décisive sur la poursuite du chantier très contesté de la 69 entre Toulouse et Castres, un projet qui s'apprête à entrer dans sa phase finale de travaux. Un show immersif débarque à Toulouse. L'église du Jésus se transforme en un véritable spectacle de son et de lumière. L'expérience immersive Genesis plonge les visiteurs au cœur de la création de l'univers à travers des projections féeriques. Un rendez-vous à découvrir chaque soir, du mercredi au dimanche jusqu'au 11 janvier. 4 jours de fête pour les 10 ans de cette boutique cadurcienne. Les petits producteurs boutiques et lieu de dégustation place Champollion à Cahors, fête ses 10 ans du 18 au 21 décembre. Créée en 2015 à l'initiative de Yann Janico, l'aventure rassemble aujourd'hui plus d'une vingtaine de producteurs locaux, vignerons, brasseurs, conserveurs ou trufficulteurs, tous engagés pour valoriser le terroir et la gastronomie quercinoise. Le Zénith de Toulouse reçoit un artiste incontournable de la chanson française. L'artiste Matt Pokora fera escale à Toulouse le vendredi 19 décembre au Zénith dans le cadre de son Adrenaline Tour. Après ses tubes bien connus, il présentera ses nouveaux singles Reflets et Mille Fois. Il reste encore quelques places pour ce concert. Le football féminin et le futsal au cœur des priorités dans le Lot. L'Assemblée Générale Financière du District du Lot de football s'est tenue hier à Cahors, réunissant de nombreux représentants des clubs lotois. Le président Bernard Bat en a profité pour dresser un bilan complet de la saison et de la santé du football départemental. Enfin, un pari écologique réussi pour Morgane Lelièvre. Après 6 week-ends d'efforts, le défi est accompli pour la jeune Toulousaine. Elle vient de boucler les 265 km du canal du Midi entre Sète et Toulouse. Près de 140 kg de détritus ont été collectés, triés et jetés tout au long de son parcours. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.
Eh bien, un grand merci à toi, Wassim Dir, voilà, de l'École supérieure de journalisme de Toulouse, qui a un partenariat avec Radio Présence. Et on salue, bien sûr, tous ces élèves qui rédigent chaque jour ce journal de la mi-journée. Dans quelques instants, on sera avec Monseigneur Perrier. Monseigneur Perrier qui va nous parler du Père Vergès, qui est en route pour cette béatification qui aura lieu samedi prochain, en direct depuis Notre-Dame de Paris. Et on vous retransmettra cette messe sur Radio Présence. Et puis on parlera également des régiments des dragons qui sont de retour à Auch. Et tout cela, nous le devons à Pauline Cazier.
Présence à Mirande, 104.2.
Dans le cadre des séquences mémorielles du 80e anniversaire de la fin de la guerre 39-45, le 2e régiment de dragons, aujourd'hui basé à Fontevraud, a fait son retour à Auch. Ce régiment a marqué l'histoire de la caserne Espagne, où il trouva ses quartiers au sein de l'armée d'armistice de 1940 et 1942. Je vous propose d'écouter l'interview du capitaine Persin, représentant le 2e régiment de dragons.
Eh bien, c'est un étendard et surtout un régiment qui a une particularité dans son étendard, et le seul étendard décoré de la médaille des évadés, ce qui en fait un régiment très à part dans notre armée. Évadé parce que à l'occupation, le capitaine de Neuchèze a évadé cet étendard pour permettre de continuer le combat face à l'ennemi allemand. Et c'est devenu à chaque fois une tradition de célébrer ce fait historique mémoriel.
Alors nous sommes ici, caserne Espagne à Auch, et en 1942, le 2e régiment de dragons était dans cette caserne.
Oui, et c'est justement là qu'est s'est déroulé le serment d'Auch, qui a ancré cette volonté de pouvoir poursuivre le combat. Et c'est à partir d'ici que le code de l'étendard s'est évadé pour reprendre le combat.
Parce qu'il fallait soit passer à l'ennemi, si on peut dire, ou bien rentrer dans la résistance. Comment ça se passe?
Disons que c'est un acte extrêmement symbolique pour les hommes combattants, pour les combattants, de garder son étendard, parce que l'étendard, c'est la ligne de mire, c'est ce qui nous permet de continuer à se battre et à protéger nos valeurs. Donc ça en a été un fait historique sur lequel le régiment perpétue la mémoire toute chaque année. Oui, le régiment est basé à Sfontevraud, actuellement depuis pas mal d'années, à côté de Saumur. Nous sommes une association de reconstitution et nous sommes jumelés avec le 2e Dragon. Et nous, à chaque fait historique et commémoriel, nous sommes là pour marquer la mémoire des anciens en tenue d'époque. Voilà, ce qui fait un lien avec notre armée du passé, notre armée du présent et du futur, et ce qui plaît beaucoup au régiment, beaucoup au monde militaire, et également beaucoup au public et surtout à nos jeunes, ce qui permet d'accélérer le lien armée-nation.
Et une dernière question, cet étendard qu'on a vu, où est-ce qu'il va être dès à présent?
Ah, l'étendard est conservé au régiment dans le bureau du chef de corps.
Voilà, à l'instant, vous avez entendu le capitaine Persin qui représentait le 2e régiment de dragons. On écoute maintenant Jean Aucassin, le secrétaire national de l'association des anciens du Corps Franc Premier.
Et j'ai tenu donc à manifester la présence du Corps Franc Premier dans cette cérémonie, comme dans la conférence d'hier soir qui a eu lieu au Théâtre d'Auch, pour bien signifier le parallélisme, voire la coopération qui pouvait exister entre les militaires du 2e Dragon et les résistants donc du Corps Franc Pommiès.
Lors de la conférence hier soir, vous avez fait un historique de cet épisode de l'étendard évadé?
Exactement. C'est un épisode qui est très, très très marquant pour tout le monde, donc pour les Occitains en général, mais pour le 2e Dragon surtout, puisque c'était non pas tout à fait le serment à l'étendard, mais les adieux à l'étendard, dans la mesure où le régiment était dissous et il fallait donc camoufler le matériel de militaire et sauver l'étendard qui était donc le symbole de ce régiment.
Est-ce que vous pouvez nous donner le parcours qu'a fait cet étendard après avoir quitté Auch?
Il a été confié donc à une personne de Laromieux, monsieur Bouet, qui disposait dans son domaine d'une grotte dans laquelle il avait accepté de camoufler déjà des armes et où l'étendard a trouvé sa place pendant quelques mois avant qu'on ne le confie ensuite au capitaine de Neuchèze qui est venu le récupérer ici donc à Laromieux, qui l'a ensuite amené à Lyon, car le but était de rejoindre la côte provençale pour pouvoir l'exfiltrer et le retrouver donc en Afrique du Nord, là où était le chef du régiment, à savoir le colonel Schlesser. Donc de Neuchèze a eu cette idée géniale, je trouve, de s'envelopper dans le drapeau et sous ses vêtements. Donc il est parti de Lyon à Ramatuelle, où un sous-marin, la Rétuse, donc l'attendait pour pouvoir passer donc en Algérie, où on l'a retrouvé le 1er octobre 1943.
Donc pour vous, ça doit être une grande émotion de voir l'étendard aujourd'hui?
Ah oui, oui, oui. Et je voudrais préciser aussi que cet étendard actuellement figure donc dans le ministère des Armées, mais dans une place qui n'est pas exceptionnelle à mon sens, puisqu'il est rangé dans les réserves. Et je trouve qu'un tel étendard qui a eu une telle vie mériterait une place beaucoup plus illuminé, beaucoup plus éclairé, et je ne désespère pas de le voir revenir ou momentanément, enfin provisoirement, ici à Auch, au musée donc de la résistance et de la déportation.
Voilà, vous venez d'entendre à l'instant Jean Aucassin, secrétaire national de l'Association des anciens du Corps franc Pommiès. Et pour terminer cette interview, on écoute le fameux serment lu par le colonel Rémi Scarpa.
Être présent en ce lieu n'est pas seulement un retour aux sources. C'est un acte de fidélité envers notre histoire. Un hommage vivant à ceux qui ont porté l'étendard dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire du régiment, mais aussi de notre chère nation. Alors que la France était aux deux tiers occupée et que le régiment appartenait à une armée d'armistice surveillée, contrôlée, le colonel Schlesser n'avait qu'une ambition et qu'une mission, préparer ses dragons à reprendre le combat pour l'honneur du pays. Lorsque le 8 novembre 1942, l'Afrique du Nord se soulève et que la zone libre est envahie, il décide sans hésitation. Dans la nuit du 29 au 30 novembre 1942, alors que le quartier Espagne allait être honteusement livré à l'ennemi, les officiers, sous-officiers et les dragons en civil se rassemblent une dernière fois autour de l'étendard. Est-ce une fin ? Non. C'est un commencement. Un à un, ils s'agenouillent, en baissent les plis et prêtent le serment solennel de savoir donner leur vie pour que vive la France. Cet adieu, loin de marquer l'issue d'une épopée, scelle un ralliement, le ralliement de l'honneur. Le colonel Schlesser rejoint l'Afrique du Nord pour reconstituer le régiment. En métropole, l'étendard est sauvé, caché, protégé. D'abord par l'adjudant-chef Faro, fidèle entre les fidèles, puis à la Romieux, où il sera pieusement conservé. Quand vient le moment de l'exfiltrer, c'est le capitaine de Neuchèze, tout juste évadé du Val-de-Grâce après les pires tortures, qui reçoit l'honneur de cette mission. Grâce au réseau du commandant Payol et à l'audace des sous-marins français, dont l'Arétuse, l'étendard franchit la Méditerranée et rejoint l'Afrique française du Nord et le colonel Schlesser. Il retrouve alors son régiment et sa place, symbole vivant de fidélité et de courage. Cette histoire a longtemps été transmise par la voix et la plume de nos anciens. Aujourd'hui, elle retrouve une force nouvelle en cette année du 80e anniversaire de la victoire et de la remise de la médaille des évadés à notre étendard, grâce à l'initiative d'une bande dessinée nommée « Le capitaine et l'étendard ». Elle va permettre aux jeunes générations, à nos familles, à nos enfants, à tous ceux qui nous entourent, à la nation, de comprendre ce qu'a représenté en ces lieux mêmes ce serment. Un acte d'honneur militaire, certes, mais aussi de résistance morale et citoyenne et d'amour de la France. Elle rappellera que ce serment n'appartient pas au passé, qu'il doit se renouveler quotidiennement par nos actions, les plus simples comme les plus douloureuses. Ce serment vit encore dans les veines du régiment. Nous en sommes les héritiers directs. Leur serment nous oblige. Il nous commande la discipline, il nous commande l'exigence et l'esprit de sacrifice du quotidien qui est peut-être souvent le plus difficile. Il nous rappelle que même quand tout vacille, les dragons savent choisir l'honneur. Il nous rappelle que la mémoire de la nuit du 29 au 30 novembre 1942 doit inspirer chacun d'entre nous pour que le soleil de la liberté brille encore et que le régiment se conforme à sa devise « Donnez-moi l'opportunité et je resplendirai ». Que ce serment et que cette devise nous guident, qu'elle assure notre fidélité au régiment, à notre étendard et à la France.
Voilà, vous venez d'entendre le fameux serment du lu par le colonel Rémi Scarpa. Un grand merci à notre correspondante dans le Gers, Pauline Cazier.
Tu viens me dire qu'il est trop tard. Pour moi, l'amour n'a pas de temps. Et si ça s'en va comme ça, c'est trop dérisoire. Dis-moi qu'on est plus important. Chacun vit ses doutes, c'est vrai. Mais devant toi, je n'en ai plus. Je vais passer mes nuits à toujours te chercher. Jamais sûr de t'avoir perdu. Mais mon arme, c'est toi. Jusqu'aux larmes, c'est toi. Ton visage et ta voix ne ressemblent à personne, personne. Mais je t'aime, c'est toi. C'est toi, quand je saigne, crois-moi. Je ne veux qu'une personne ou personne. Tu viens me dire que je suis fort. Pour me laisser seul maintenant. Reste le feu même si la flamme est déjà morte. Je le sais, qu'il y a des erreurs qui font trop mal. Si tu veux partir, je ne peux rien effacer. J'ai beau savoir que c'est normal. Mais mon arme, c'est toi. Jusqu'aux larmes, c'est toi.
Bienheureux Pascal Vergès, un enfant de la Bigorre mort en haine de la foi, une histoire racontée par Mgr Jacques Perrier.
Bonjour. Pour nous préparer à la cérémonie de béatification des 50 martyrs de l'apostolat, parmi lesquels l'abbé Pascal Vergès, quelqu'un du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, cette petite série d'émissions vise à faire connaître un peu Pascal Vergès, surtout le contexte dans lequel il a vécu et qui l'ont amené jusqu'au témoignage suprême du martyr. Dans une première émission, je vous avais présenté le groupe d'ensemble, d'une part, et puis de l'émission d'hier, la biographie, sommairement, de Pascal Vergès dans son enfance et sa jeunesse. Je terminais en disant, mais le tournant, ça sera 1943, et le problème du service du travail obligatoire. Les Allemands demandent à Vichy d'envoyer du renfort parce que les usines sont privées de leurs ouvriers, ils sont soldats. L'armée allemande a perdu déjà beaucoup, beaucoup de soldats, en particulier sur le front russe. La chute de Stalingrad qu'espéraient les Allemands ne s'est pas produite, donc c'est un échec pour les Allemands. Dans un premier temps, ils essaient une négociation. Si vous envoyez des travailleurs, on vous rendra des prisonniers, avec des gens qui seraient volontaires pour venir. Évidemment, vous voyez un peu le type de chantage. Ben, si tu pars là-bas, oui, ça fera des pères de famille qui vont revenir. Enfin, ça marche pas très bien, quand même. Les Allemands eux-mêmes reconnaissent que le système ne marche pas. À ce moment-là, il y a une pression beaucoup plus forte qui s'exerce sur Vichy, qui prend des ordonnances de début 1943 pour la réquisition. Réquisition, ce sera le terme qui sera employé. La réquisition de jeunes pour les envoyer en Allemagne. Ce sera le service du travail obligatoire. Bon. Cette pression sur Vichy est telle que le père Gaston Fessard, jésuite, comme le père de Lubac dont je vous avais parlé, vous avez cité une phrase dans une émission précédente, édite sur le prince esclave. C'est-à-dire, Pétain, oui, c'est le prince, mais il est esclave. Et donc, on n'est pas lié par les décisions que prend le prince, même s'il est toujours le prince, mais qui est esclave. Donc en fait, il n'est pas libre de ses décisions. Par rapport à ça, quelle va être l'attitude des évêques? Début 43, les Allemands ont envahi la zone sud depuis que les Anglo-Américains ont débarqué en Afrique du Nord, donc il n'y a même plus la fiction d'une zone libre. À ce moment-là, ce qui s'exprime au nom de l'Église de France, c'est l'Assemblée des cardinaux et archevêques. Et donc, le 8 avril 1943, ils disent que le départ au STO ne constitue pas une obligation de conscience. Voilà. Donc, il y a un devoir de résistance. Alors, le devoir de résistance peut s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Enfin, il n'y a pas, donc, une obligation de conscience, très important. Bon, d'où mon histoire du prince esclave. Il met toujours le prince, mais il est esclave, donc il n'est pas libre, donc vous n'êtes pas tenu par ce qu'il vous demande de faire. Et ils emploient l'expression « les innombrables Français qui étant requis ». Voilà. Monseigneur Théas, qui sera ensuite évêque de Tarbes-et-Lourdes, mais à ce moment-là, qui est à Montauban, il dit carrément « on n'a pas le droit d'obliger les gens à cela, c'est une atteinte au droit naturel ». Donc, il n'y a pas une condamnation formelle du STO, bon. Mais il n'y a pas non plus l'obligation de conscience. Ce qui fait que les jeunes qui sont requis vont être mis devant un choix, chrétiennement. En particulier, ça va beaucoup peser sur nos jeunessistes. Je vous ai dit que dans les 50, il y a 19 jeunesse ouvrière chrétienne. Y aller ou ne pas y aller? Et on voit bien qu'il y a débat à l'intérieur même du mouvement. Ne pas y aller, entrer en clandestinité, se cacher, etc. Bon, éventuellement, ça a des conséquences sur la famille. Il peut y avoir des représailles. Et puis, les maquis, effectivement, vont beaucoup augmenter d'effectifs à ce moment-là. Mais ils n'étaient pas encore très, très nombreux. Hein. Tout le monde n'avait pas un maquis à portée de la main. Bon, et puis, il n'y a pas des forêts partout. Bon. Alors ça, c'est un côté quand même, se dire, voilà, ça, d'une manière, même si c'est très indirectement, je ne veux pas aller en Allemagne, je ne veux pas apporter, si ce n'est pas une caution, mais une aide, fût-elle purement matérielle, à nos ennemis. Et puis, il y a l'autre choix, qui est le choix des jeunessistes, de ceux donc, qui seront évidemment martyrs, c'est le choix aussi des scouts, ça sera le choix des séminaristes, etc., de tous ceux, finalement, qui seront reconnus martyrs de l'apostolat. Ben oui, mais beaucoup de nos amis partent, on va pas les laisser tout seuls. 43, c'est l'année de publication de France, pays de mission. C'est le moment où on prend conscience que, selon une formule d'un pape, l'Église a perdu la classe ouvrière. Et donc, ces militants jossistes, je les avais cités, une de leurs devises, c'était « nous referons chrétiens nos frères ». Ben oui, mais si on n'est pas avec eux, comment est-ce qu'on peut témoigner du Christ auprès d'eux? Donc là, si vous voulez, c'est un choix vraiment très, très en conscience, très, très radical. Et du côté épiscopal, on leur dit pas que c'est une obligation d'y aller, qu'au nom de la solidarité avec les autres, il faut y aller absolument. Bon, on leur dit pas non plus de ne pas y aller. Donc, voilà nos jeunes partis pour l'Allemagne, service du travail obligatoire. Alors, la plupart sont dans des camps. Effectivement, c'est quand même pas tout à fait des prisonniers. C'est-à-dire, il y a les horaires de travail, l'usine, l'atelier, etc. Ben, le soir, on est libre. Et puis, on a une petite paye quand même, au moins au départ. Bon, parfois, il y a des permissions aussi. Le problème, c'est qu'effectivement, ils sont très très loin, complètement coupés de leurs racines. Et puis, les Allemands, les nazis, refusent obstinément toute assistance spirituelle. Donc ils sont complètement perdus, complètement paumés. Ils ont un peu d'argent, un peu de temps libre, quoi est-ce qu'on fait ? Complètement désœuvrés. Ils peuvent faire n'importe quoi, n'importe quelle bêtise. Enfin, bêtise, voilà. Et les Allemands sont plutôt favorables à cette dépravation morale, enfin, à cet désarmement moral. Ce qui fait que l'action apostolique, elle sera directement spirituelle, mais elle portera aussi, disons, sur des activités pour que les gens retrouvent un peu de culture. Ils sont très nombreux. Ils sont, on pense, 600 000, 650 000, quelque chose comme ça, français. Et puis, il y en a d'autres qui viennent de tous les pays occupés par les Allemands. Donc, ça fait une masse considérable. Et donc, il y aura demain que cette masse considérable de jeunes, les nazis espèrent en faire un peu le modèle, le prototype de ce que devrait être l'humanité nouvelle dans l'Europe que les nazis imaginent, évidemment, imaginent à l'ombre de l'aigle du Troisième Reich. Voilà, donc, nos jeunes partis. Alors, ce sont ceux des classes 20, 21 et 22. Ça se passe en 43. Donc, vous voyez, ils ont entre 21 et 23 ans. Et parmi les prêtres, il y en a un qui a été ordonné. Il avait 22 ans. Eh ben oui, ben, il est parti pour le STO. Ça sera un des prêtres qui sont proclamés martyrs et qui est mort, d'ailleurs, exactement dans le même camp, il y a quelques jours, de distance de l'abbé Pascal Vergès.
Bienheureux Pascal Vergès, un enfant de la Bigorre mort en haine de la foi, une histoire racontée par Mgr Jacques Perrier.
Des escargots et je suis bien. Je ne bois que de l'eau, je vis dans la prairie, je me porte bien. Dans un coin, mon lit est tout petit, mais j'y dors très bien. Les jours sont les mêmes, mais ça ne me dérange pas. Je ne partage pas mes jours, ma raison se détache de l'élégance et de l'amour. Je ne peux plus vivre en ville, je veux la paix. Mais chaque jour est un long chemin. Chaque jour est un long chemin. Toute seule jusque-là, je n'ai jamais eu à prendre une décision. Mes voisins venaient chez moi pour me plaire et sans regret, je n'aime pas les divisions. Pousser l'herbe, les fleurs. Mon terrain est plat, je n'en profite pas. Je n'y suis que pour prendre l'air. Je passe mon temps sous mon toit, et je l'entretiens. Et si on frappe à la porte, j'ouvre que si l'on a juste besoin de rien. Mais chaque jour est un long chemin. Chaque jour est un long chemin. Est un long chemin. pense et je ne pense pas plus au travail. La maison peut brûler, me tomber sur la tête. Jusqu'au matin, je fais la sieste. Je ne regarde jamais les semaines. Je ne compte pas les jours. Je m'efforce de voir la mer, mais le temps n'est pas...
Dans le Grand Toulouse, 97.9.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Audience générale du pape Léon XIV, place Saint-Pierre ce matin, une catéchèse consacrée au mystère de la mort.